Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce direct en extérieur où nous allons parler de légendes urbaines. Les légendes urbaines, alors c'est pas nous qui allons vous en raconter bien entendu, mais nous vous parlons bien d'un projet qui a été coporté avec le Tangram, les écoles du quartier de Netreville, ainsi que trois artistes, Laetitia Adjanoun, Pierre Lamandé et Joseph Baudet. Nous les aurons à nos micros, bien entendu. Nous aurons également à nos micros les opérateurs, ceux qui regardaient de loin et en même temps qui œuvraient sur le précis, à savoir Barbara Samuel, SDEN. Nous reviendrons sur cette appellation de SDEN qui ne parle que dans le milieu d'éducation nationale. Vous l'aurez compris, c'est une fonction de l'éducation nationale. Oui, bah dites-nous directement, hein, ça évitera qu'on dise...
DSDEN. C'est l'inspection académique.
L'inspection académique. Nous aurons également Émilie Rabier, qui est coordinatrice du réseau d'éducation prioritaire. C'est un petit peu plus clair, mais on dit aussi... le REP, ouais. C'est ça, voilà, histoire de compliquer les choses. Et nous aurons également Valérie Barran, à nouveau à nos micros, directrice du Tangram. Bonjour à toutes et à tous. Et puis en quelques instants déjà, remettons un peu le contexte. J'ai dit que nous allions parler de légendes urbaines. Ce sont des légendes qui ont été écrites par les enfants des classes élémentaires. Et certaines nouvelles ont été également écrites par des élèves du collège Henri Dunant de Netreville. En quelques mots, quel est l'objet de ce projet? Quel est l'idée dont part ces écritures autour des légendes urbaines? Valérie Barran, directrice du Tangram, peut-être un petit peu comment est né ce projet?
Oui, alors ce qui a présidé à ce projet, qui est un projet de long terme, qui va se déployer sur 3 ans, hein, dans le quartier de Netreville, donc qui est un des quartiers de la ville d'Évreux, un quartier important et un peu éloigné du centre, eh bien, ça a été à la fois de travailler sur... sur l'accessibilité. C'est-à-dire que vous savez que le Tangram est un établissement public qui a dans son cahier des charges, dans ses missions, hein, la question de l'accessibilité, c'est-à-dire de rendre l'art et la culture accessibles à tous, y compris à des gens qui en seraient éloignés, des personnes qui en seraient éloignées pour des raisons qui peuvent être géographiques, mais qui peuvent être culturelles, économiques ou autres. Donc il nous a semblé important de nous rapprocher de ce quartier qui était un peu plus éloigné du centre, on va dire, où se trouvent les établissements du Tangram, mais également d'aller à la rencontre de ces populations qui sont porteuses d'une culture que souvent on ignore. C'est-à-dire que ce que nous défendons au Tangram, c'est aussi qu'il n'y a pas une culture, si vous voulez, qui serait au cœur des scènes nationales ou des établissements labellisés par l'État et qui serait la bonne culture ou en tout cas les bons spectacles. C'est-à-dire que tout le monde est détenteur d'histoire, de récits, de souvenirs et de culture qui sont extrêmement importants, qui sont... tout aussi valable et que nous avons aussi envie de partager.
Il y a du bruit de mon côté, je crois.
Non, c'est ça. Je continue si vous voulez.
Non, c'est ça. Oui, oui, continuez. On va mettre sous les oreillers là, tout ce qui
donc,
fait
si
du bruit.
Voulez, dans le projet que j'entends développer au Tangram, il est pour moi important à la fois évidemment de développer une offre artistique sur les établissements, dans les équipements qui sont les nôtres, mais aussi d'aller à la rencontre des populations. Donc, des populations les plus éloignées, je vous le disais, donc la ruralité, hein, puisqu'on va aussi rencontrer avec les artistes des habitants de petites communes rurales de l'Eure, mais également des habitants de quartiers. Et nous avons décidé de nous intéresser à ce quartier de Netreville, qui est un quartier qui est riche d'une histoire forte, riche d'habitants eux-mêmes, riche d'histoires absolument dingues et de culture. Donc, ce que j'ai souhaité également, si vous voulez, c'était finalement offrir à des artistes que j'estime, dont j'aime la force du propos, la force de l'écriture, la force du travail, c'est-à-dire des artistes qui ont une très grande singularité, qui ont aussi cet immense talent de savoir entendre, mais aussi de savoir transcender, de savoir porter, mettre en lumière, en exergue, voilà, le savoir de ces personnes, ou les récits, ou le talent de ces personnes que parfois elles-mêmes négligent et ignorent. Et c'est pour ça que j'ai souhaité confier cette résidence de 3 ans à 2 artistes que j'adore, qui sont Laetitia Adjanoun, qui est une autrice et metteuse en scène de grand talent, et Pierre Lamandé, qui nous accompagne aussi donc pendant ces 3 ans, qui est un metteur en scène que vous retrouverez dans la saison prochaine. Tous les deux, vous les retrouverez la saison prochaine aussi sur d'autres, à d'autres endroits. Voilà, j'ai été peut-être un peu longue.
Non, mais ça permet de donner aussi le cadre un petit peu général de pourquoi, au bout d'un moment, on intervient sur ces écoles, et puis dans quel objectif et dans quel sens.
Alors, l'objectif pour nous, si je puis me permettre, une dernière chose, c'est que ce n'est pas de travailler seulement en direction des écoles. Là, évidemment, on va parler de cette étape première qui s'est déroulée dans des conditions un peu particulières, qui sont celles que nous avons connues cette année avec la crise sanitaire que nous continuons de traverser. Mais on s'adresse bien à l'ensemble de la population dans l'ensemble de ces composantes, c'est-à-dire à la fois, évidemment, les très jeunes, les enfants, les scolaires, mais également la population dans son ensemble, hein, dans toute sa diversité.
Alors justement, sur cette première phase, voilà, les écoles ont œuvré, ont écrit de belles légendes que nous allons écouter dans un tout petit instant, bien entendu. Mais je voulais d'abord me retourner sur la physionomie un petit peu de ce projet et comment est-ce que des écoles peuvent être intéressées, dans quel sens une école peut intégrer ça au-delà de son programme et à ses découvertes. J'étais en train de chercher un petit peu le mot, mais c'est voilà, comment une école s'intègre, s'approprie aussi un projet de ce type-là. Je me retourne plutôt vers vous, Barbara Samuel et Émilie Rabier. Je ne sais pas comment est-ce qu'on... Voilà, laquelle se sent plus à l'aise pour alors, comment une école s'empare de ça.
Je me représente 2 minutes. Moi, je suis ici à double titre parce que je suis conseillère pédagogique sur la circonscription d'Évreux 2, dont font partie les écoles qui participent à ce projet. Et en même temps, je porte la mission théâtre pour le département. Donc j'ai l'habitude de travailler avec le Tangram, qui est un de nos partenaires depuis plusieurs années déjà. Et donc ce projet de résidence était déjà à l'origine destiné à ces écoles de Netreville, à qui nous avons donc présenté le projet. Il y a eu une rencontre entre les artistes et les enseignantes de l'école, et le travail a été fait continuellement, main dans la main, depuis le départ. Pour nous, c'est une chance, évidemment, qu'il y ait des artistes qui puissent entrer à l'école, c'est fondamental. Les derniers mois ont été compliqués, c'est une chance que ce projet ait pu aboutir et voir le bout, et finalement, au milieu de toutes les restrictions, les seuls qui ont pu encore entrer dans les écoles, ce sont les artistes. Donc on s'en félicite et tant mieux. Ça a été d'une richesse très grande pour les enseignants et pour les enfants. Et donc, pour répondre à votre question, c'était un travail au long cours sur l'année. L'éducation artistique et culturelle font partie des programmes de l'école primaire. Et donc, c'est tout naturellement qu'un projet comme celui-ci, il prend place.
Émilie Rabier, on parlait de réseau d'éducation prioritaire sur le quartier de Netreville. On est sur une de ces zonages, comme on peut dire. Quelle est la plus-value, quand on parle d'éducation prioritaire, on parle de moyens aussi particuliers ou supplémentaires d'apprentissage. Quelle est la plus-value de ce type de projet?
Alors, en termes de moyens, le réseau n'y est pour rien, là, sur le projet en particulier. En revanche, ça a permis de créer une expérience partagée et de mettre en place une culture commune au sein du réseau, c'est-à-dire les 5 écoles du quartier de Netreville et le collège, puisque le réseau est représenté aussi par le collège. Le but étant quand même, dans ce projet-là, d'amener un projet commun à la totalité des enfants, en tout cas du cycle 3 et sur le collège. Donc les enfants ont réellement pu partager quelque chose de commun, quelque chose qu'ils vont pouvoir perpétuer une fois qu'ils vont passer au collège et retravailler. C'est une base de culture commune, au-delà de ce qu'ils connaissent, eux, déjà. Et puis ça nous permet, nous, derrière, après, en termes de réseau, de les emmener un petit peu plus loin. C'est-à-dire que c'est un peu le tremplin, l'élan qui va leur permettre peut-être de sortir de leur quartier pour aller vers d'autres lieux de culture, que ce soit le Tangram, mais aussi des concerts, des spectacles de rue. Voilà, ça permet aussi d'aller un petit peu plus loin. Le fait de faire réseau permet ça, d'amener les enfants à sortir un petit peu de ce qu'ils connaissent déjà.
Alors, on parle de ce projet. Je vous propose que nous en écoutions une des toutes premières productions. Et je vois Pierre et Laetitia qui sourient. Laetitia qui dit oui. Pierre, peut-être, on va présenter quand même ce qui se passe.
Juste deux secondes.
Oui.
Parce qu'en fait, cette émission, merci à Principe Actif de nous accueillir. Et je voudrais juste dire bonjour à tous les enfants qui ont participé à ce projet, qui sont en train de nous écouter normalement, j'espère, dans les écoles. Je sais que Joseph et Laetitia vont s'associer à moi.
Bonjour.
Mais vraiment, voilà, on est très heureuses Bonjour. Et heureux que vous soyez à notre écoute.
Et bravo.
On pense à vous, que ce soit à Paul Éluard, à Bois Boy ou à Jacques Cartier. Et on espère que vous allez prendre du plaisir à découvrir ce travail qu'on a fait toutes et tous ensemble. Voilà, je voulais juste le dire.
Alors vous faites très bien de le dire justement, on a planté un peu le décor, c'était peut-être un petit peu plus institutionnel, mais là le but du jeu c'est d'être en échange effectivement avec les enfants également qui ont participé à ce projet. On va d'ailleurs appeler certaines classes durant cette émission pour échanger avec les instituteurs, institutrices qui ont participé à ce projet. Mais oui, bien entendu, on devait planter le décor. Mais on va un petit peu rire aussi, et puis surtout, on va écouter de belles histoires. Je vous propose, sans plus attendre, que nous écoutions la toute première histoire. C'est Le Bunker. On revient après pour en parler de cette histoire, bien entendu, et puis de voir quelles techniques ont été employées, et puis échanger aussi avec tous ceux qui ont participé. Enfin, peut-être pas tous, parce qu'ils étaient nombreux, les élèves, hein. Mais en tout cas, échanger avec les enseignants autour de comment ça a été fait. Mais tout de suite, on rentre dans le vif du sujet et on s'écoute Le Bunker.
Le Bunker. J'ai entendu dire que le bunker qui se trouve aux 9 rue des Réservoirs.
À côté du Panorama.
À côté du Bois Boy.
À côté de l'immeuble Aquitaine.
Eh bien, ce bunker est habité par un fantôme.
Notre bunker de l'extérieur semble minuscule.
Alors qu'à l'intérieur, il est immense.
Ses murs sont blancs et gris.
Couverts de graffitis et de lierre.
À ses fenêtres, on trouve des barreaux rouillés.
Il ressemble à du bronze.
Son intérieur est chargé de déchets de toutes sortes. Des canettes de bière.
Des paquets vides.
Des bouts de verre.
Des câbles.
À plusieurs reprises, des inondations ont sali d'eau le sol.
Voulez-vous qu'on vous raconte son histoire ?
L'histoire de ce bunker ?
La voici.
On m'a soufflé que ce bunker datait de la Seconde Guerre mondiale.
À cette époque, les Netrovillais s'y réfugiaient.
Dès qu'il y avait des bombardements...
ans plus tard, débute la légende.
Celle de l'astronaute Among Us.
Le connaissez-vous ?
Non.
Évidemment non.
C'est une histoire finalement assez peu connue.
Among Us est né en 1941.
Dans une petite ville de Californie.
Depuis son plus jeune âge, il rêve d'aller sur la Lune.
Il partage ce rêve avec son meilleur ami Ryan.
Tous deux vont entamer des études d'astronomie.
Malheureusement, Ryan doit arrêter.
Parce qu'il ne peut pas payer ses études.
Il doit travailler.
Faire des petits boulots.
Pour manger.
Et se louer une chambre.
Petit à petit, dans la tête de Ryan, la jalousie grandit.
Pourquoi ?
Pourquoi ?
Pourquoi ? Pourquoi Among Us peut vivre librement ses rêves ?
Et moi pas ?
Pourquoi vient-il d'une famille honorable et argentée ?
Et moi pas ?
Pourquoi ?
C'est injuste, se dit-il.
Un jour, il en a ras la casquette de faire des boulots qui n'ont pas de sens.
Il veut profiter de la vie.
Alors, il prend son courage à deux mains
et demande à Among Us une aide financière pour reprendre ses études.
Je te rendrai cet argent prêté peu à peu,
promet-il à Among Us.
Me rendre peu à peu l'argent prêté,
répond Among Us.
Mensonge, tu ne rends jamais l'argent prêté. Avec toi, quand on prête, on donne.
Among Us refuse.
Là, Ryan a la rage.
Son ami est un faux gars.
Il décide de manigancer un plan.
Il y a quelques jours, Among Us lui offre un cadeau de Noël.
Un billet pour la France. Cocorico !
Au lieu de lui donner cet argent, Ryan se mord les lèvres.
À la rage.
Il se retrouve à l'aéroport en partance pour la France avec son ami Among Us.
Le 24 décembre,
il arrive à Netreville,
dans la famille française d'Among Us.
Among Us est français par sa mère.
Et américain par son père.
Oh, yeah.
Et là, vive Ryan Hinde.
Dans la maison familiale d'Among Us, il n'y a pas de sapin dans son salon. Ryan propose donc à son ami d'aller acheter un sapin et des décorations. Il emprunte les breaks du papy d'Among Us. Au retour, Ryan demande à Among Us.
Tu sais le bunker strange dont tu parles à moi souvent, il est où ?
Tu veux le voir là maintenant ?
Oh oui.
Among Us se gare alors.
Viens, souffle-t-il à Ryan.
C'est par là.
Il se dirige vers le bunker. Arrivé près du bunker,
bim ! Ryan plaque Among Us au sol.
Comme au rugby.
Bim ! Ryan sort un couteau suisse.
Couteau qu'il a trouvé dans la maison des parents d'Among Us. Among Us tente de se défendre avec ses pieds.
Mais Ryan, tiens debout.
Among Us hurle.
Non !
Pourquoi tu me fais ça ? Je ne te reconnais pas, tu n'es plus le même.
Ryan lui répond.
Tais-toi, tu dis de la D, imbécile, laisse faire toi.
Among Us pleure alors et se met à prier.
Ryan arme son couteau en criant.
Désolé.
Il poignarde son ami.
Ryan retourne vers le break et enlève la bâche qui contenait le sapin.
Il l'emporte et la dépose au sol à côté d'Among Us.
Il fait rouler Among Us.
Il ferme la bâche.
Et tire le corps froid et immobile vers le bunker.
Quand il arrive près de la porte secondaire du bunker,
il force la porte avec son pied.
Et traîne Among Us à l'intérieur.
J'ai des pommes de terre, il faut que je parte au plus vite.
Se dit Ryan.
Il retourne à la voiture en courant.
Il démarre le break.
Et se dirige vers l'aéroport.
Roissy, Charles de Gaulle.
Ryan est pâle. Il tremble.
Des gouttelettes de sueur perlent sur son visage.
Qu'ai-je fait, purée de pommes de terre, qu'ai-je fait ?
Se dit-il en anglais.
Et boum ! Au moment où il arrive à Montagnoli, un camion percute une voiture.
Accident ! La police arrive !
Ryan suit de plus belle et devient rouge.
Ryan est à l'arrêt sur l'autoroute.
Durant une heure.
Quand il reprend son chemin, il appuie sur le champignon pour aller bien plus vite.
Arrivé à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, il abandonne le break dans les parkings souterrains du troisième étage.
Il court. Bouscule certains voyageurs
et se précipite au guichet d'air USA.
Bonjour madame, excusez-moi, dérange-vous. Pardon, purée de pommes de terre. J'ai ici au Yes un billet pour le samedi 1er janvier. J'aimerais changer pour voir la date, please, du retour. Des places disponibles pour la Californie aujourd'hui.
Monsieur, vous avez énormément de chance. Il me reste justement une dernière place disponible pour le vol de 21h30.
Merci madame, thanks, oh my god, thanks.
Et c'est ainsi que Ryan disparut sans doute quelque part en Californie.
Occupons-nous maintenant du corps d'Among Us.
Il est resté mort à l'intérieur du bunker.
Qu'est-il devenu ? 3 mois après son assassinat,
dans le bunker,
son corps pourrit peu à peu. Des vers grouillent au milieu de son cerveau, dans son estomac.
Le squelette d'Among Us est de plus en plus apparent.
Son âme désemparée appelle les animaux de la forêt.
Mais cela ne fonctionne pas. Les animaux ne comprennent pas.
Among Us est sans espoir. Son âme est canapélie. Elle est fatiguée.
Un jour d'hiver,
Auguste, l'employé modèle de la poste,
comme tous les matins, va promener son chien,
Bernard Doggy. Cette matinée, Bernard Doggy court tout excité.
La truffe a l'air vers le bunker. Mais tout à coup, il renifle le danger.
Et bam ! Il grogne.
Il aboie et s'arrête.
Bernard. Among Us l'appelle.
De toutes ses forces. Mais le chien s'en va retrouver Inox, le chien d'Augustin,
le boulanger.
Et ils se mettent à jouer. Among Us sait maintenant que jamais personne ne découvrira son corps.
Il y a trop longtemps qu'il est mort.
Il sait que son histoire est définitivement perdue, introuvable.
Alors il se met à posséder les enfants de moins de 12 ans de Netreville qui passent à côté du bunker.
Il rentre dans leur rêve pour leur raconter son histoire.
Thank you.
Voilà.
Le bunker, donc écriture sur la classe, une des classes du Bois Boï, une mise en voix à l'école Jacques Cartier et puis une mise en son avec une classe de Paul Éluard. Voilà, c'est un travail qui a circulé de classe en classe. On va avoir dans un tout petit instant Magali Souya au téléphone qui est dans sa classe au Bois Boï. Mais le temps que les élèves échangent un petit peu, voilà, nous on va échanger en plateau. Je voulais solliciter Pierre et Laetitia sur cette histoire du bunker. En quelques mots, comment s'est passé le travail d'écriture sur cette première écoute? On ira peut-être regarder un peu plus le travail d'écriture pour ensuite voir un peu les travaux de mise en voix et de mise en son. Sur ce travail d'écriture, comment ça s'est passé de manière générale et sur le bunker peut-être en particulier?
Alors, de manière générale, je pense que je suis arrivée avec une proposition qui était cette proposition de légende urbaine. Et moi, je ne connaissais pas Netreville. J'y avais été que deux ou trois fois avec Pierre. Et donc, j'ai demandé aux élèves de me raconter, en tout cas, ce quartier et de choisir plusieurs lieux. Donc, dans chaque classe, ils ont choisi deux ou trois lieux. Et à partir de là, ils ont voté pour un lieu, le lieu qui leur semblait le plus propice à leur imaginaire. Puisque l'idée, c'est « on m'a dit que, on me raconte que », puisque c'est une histoire rapportée, c'est ça la légende urbaine. C'est un ragot, donc une fiction sur un lieu. Et l'idée, c'était vraiment qu'ils construisent cette fiction à partir de cet espace. Et ils ont énormément d'imaginaire. Et voilà, moi, je viens toujours dans les écoles avec un mantra d'un monsieur qui s'appelle François Bon, qui dit que écrire, c'est avoir une curiosité sur soi-même ou sur le monde, et que c'est en chacun, et qu'il suffit de la réveiller. Et donc, c'est ça que je cherche à faire. Donc, je suis plutôt... j'essaye d'ouvrir quelque chose, mais je n'indique pas. C'est-à-dire que j'ai besoin que ces élèves puissent s'emparer du projet que je propose. Voilà.
C'est accompagner à la narration, accompagner à la création, accompagner à réaliser une histoire. Parce que réaliser une histoire avec plus de 20 élèves, facile, hein, c'est même plus, de 20 élèves dans une classe, ça ne doit pas être évident quand il y en a qui a une idée, comment en faire une idée collective?
Au départ, ils ont écrit seuls un début, donc ils ont d'abord choisi trois lieux, ils ont écrit seuls, ils ont essayé d'écrire ce lieu au départ, et puis après ils ont choisi un lieu, et après c'est vraiment un jeu de la démocratie, c'est-à-dire que c'est du vote, c'est-à-dire est-ce que cette idée-là est plus intéressante, et on vote. Et voilà, et ils se sont prêtés à ce jeu, et c'est comme ça qu'on a construit petit à petit cette histoire.
Très bien, je vous propose que nous appelions Magali Souya dans sa classe. Valérie Barrand nous quitte. Merci d'être passée par nos micros. Nous allons appeler Magali Souya, donc la classe de CM2 au Bois Boï, qui eux ont participé à l'écriture du bunker, hein, si
exactement.
J'ai bien tout suivi.
Oui.
Voilà, donc on va avoir Magali Souya, pardon, au micro dans quelques instants. Pierre, sur cette façon d'aborder le texte, sur cette façon de faire émerger l'imaginaire, c'est aussi votre façon de procéder, ce que nous expliquait Laetitia. Vous opérez dans le même sens, ça marche à peu près pareil, on vient chercher, tirer sur les mêmes ressorts.
Oui, après l'idée, on se rejoint beaucoup dans la démarche qui est que vraiment tout ce qu'on entend là, bravo à vous toutes et tous qui nous écoutez, puisque c'est vraiment vous qui les avez créés, nous on a accompagné ce travail-là. Donc après, dans la question de la mise en voix, il y a plein de pistes qui sont possibles. Celles qui se sont affirmées très vite, c'est qu'on allait travailler en chorale et qu'on allait laisser personne. C'est que vraiment, dans chaque texte, déjà dans celui-là, vous l'avez entendu, mais tout le monde a participé, tout le monde s'est engagé et tout le monde a eu envie, en tout cas, de raconter l'histoire le mieux possible. Donc après, ça donne cette écriture un peu chorale. Ensuite, on a travaillé, nous, c'est pas forcément évident de prendre la parole. Et puis, on a travaillé, les enfants s'en souviennent, devant des micros. Donc, il fallait, c'est aussi une démarche qui est un peu différente, mais qui suppose aussi le corps. Donc, on est passé par des formes d'exercice, un peu, de théâtre, où chacun s'exprime, chacun cherchait. On a réveillé l'imaginaire. Et puis après, on s'est saisi toutes et tous ensemble des textes pour avoir ce que vous avez entendu.
Très bien, nous allons prendre Magali Souya, institutrice à l'école Dubois-Bohuy, avec nous. Bonjour Madame Souya.
Bonjour.
Et justement, j'allais dire bonjour à tous les élèves. Bon, comment ça se passe en classe là? Racontez-nous l'ambiance.
On a tout écouté, ils étaient très sages et là ils sont impatients, ils sont tous autour du téléphone pour donner leur avis.
Alors justement, qu'en pense-t-il de cette histoire une fois finalisée? Est-ce que ça ressemble à ce qu'ils imaginaient?
Oui, ça ressemble super bien.
Ça ressemble super bien, voilà le retour, c'est plutôt pas mal. Ça fait quoi du coup d'entendre l'histoire qu'on a écrite, réinterprétée et, par d'autres, et puis ensuite mise en son encore par d'autres? Ça fait quoi de l'entendre en fait un peu transformée finalement cette histoire, une fois mise en voix et une fois sonorisée? Alors, je vous proposais qu'il n'y en ait qu'un seul qui parle, peut-être, ou chacun son tour, s'il y en a plusieurs qui veulent parler. Ça fait quoi d'entendre que finalement ce travail a été complété par le travail de d'autres classes?
C'était bien lu et les mises en son, ils étaient bien.
Oui.
Qui
veut
rajouter?
Joseph, oui, c'est bien ce que j'ai entendu, oui. C'était bien par moi et par tous les élèves de l'école, je ne sais plus laquelle, le bunker, c'était...
Bunker, c'était Paul Éluard.
Paul Éluard. Bonjour Paul Éluard. Bravo Paul Éluard.
C'est Paul Éluard qui avait lu notre histoire, donc ils sont très malins. Et la mise en son, ils ont adoré. Ils ont trouvé que c'était bien. Ça correspondait bien à ce qu'ils espéraient, quoi. Voilà.
Ça faisait peur.
Ça faisait peur.
C'était peut-être un petit peu le but au bout d'un moment que ça fasse peur cette histoire, non?
Oui, c'était le but.
Bon, voilà. C'est plutôt réussi. Donc l'histoire est finalisée, là, elle est diffusée, elle va vivre maintenant, cette histoire, elle va participer aux légendes urbaines de Netreville maintenant, cette histoire. Une fois que le travail est terminé, qu'est-ce que ça donne comme envie une fois qu'on entend cette histoire terminée? Les élèves, ça donne quoi comme envie?
Ça fait une envie de lire le livre. En plus, vers la fin, ça fait un peu peur.
Ça donne envie de lire des livres qui font peur?
Oui.
Alors, le souvenir, est-ce qu'il y a un souvenir particulier que vous avez sur le travail que vous avez mené avec la classe? Est-ce qu'il y a une anecdote ou un souvenir particulier de cette écriture du bunker?
Non. Si, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire, Sophia? Ah, il existe. Pour Sofiane, c'était tellement vrai que maintenant, il existe. L'histoire, elle existe presque avec le bunker, là.
C'est ça, justement, l'histoire des légendes. Et là, tout à l'heure, Laetitia nous parlait en plateau que finalement, la légende, c'est le ragot qui se raconte de personne en personne en personne, qui parfois peut même être vivante comme histoire. Le fait que les élèves se disent qu'au bout d'un moment, après avoir écrit cette histoire et puis après l'avoir entendu finaliser, finalement, ils y croient, à ce bunker. Finalement, c'est la réussite d'une légende, non, quand on arrive à y croire?
Oui.
Pardon, je m'adressais plus à Laetitia, pardon.
Évidemment, quand on arrive à écrire, à y croire, c'est la réussite de la légende. Moi, je voulais leur demander, est-ce que vous avez toujours les dessins que vous avez faits du bunker?
Est-ce que vous avez toujours les dessins du bunker, les enfants?
Oui, on les a toujours.
Ah, d'accord. Donc, on va pouvoir s'en servir. Si on veut faire un livre.
Laetitia proposait que si vous vouliez en faire un livre, c'est toujours possible alors, si les dessins existent. Ça donne envie pour une classe qui a travaillé sur l'écriture d'une histoire comme ça, ça donne envie de poursuivre l'aventure avec le bunker?
Oui.
Et quelles idées et quelles idées il pourrait y avoir. Laetitia parlait à l'instant là, des dessins qui pourraient devenir un livre. Est-ce qu'il y a des idées de comment cette histoire pourrait vivre?
On pourrait mettre les dessins sur, une couverture.
Les dessins sur une couverture. Il y a, alors, vous ne les voyez pas, mais Pierre et Laetitia font oui de la tête. Ça a l'air intéressant, effectivement, mettre les dessins sur une couverture. Donc, là, on a écouté l'histoire que vous avez écrite sur le bunker. Nous allons écouter d'autres histoires que d'autres classes ont réalisées. Et puis, vous pourrez toujours mettre un petit commentaire ou demande de ce que vous voyez, de ce que vous en pensez ou de ce que ça a évoqué pour vous. En tout cas, cette histoire du bunker, elle était vraiment chouette.
Oui, merci beaucoup. Bravo encore. Bravo, bravo, bravo. Bravo.
Et voilà, il y a Pierre, Laetitia, Joseph qui vous ont accompagné pour une partie. Vous pouvez vous applaudir, hein, tout à fait, c'est largement mérité. C'est très largement mérité. Magali Souya, vous, ce type de projet dans une classe, ça permet quoi avec votre classe?
Ça permet de d'écrire et de libérer surtout, parce que quand c'est la maîtresse qui donne un écrit à faire, ils ont toujours l'impression qu'il va y avoir des règles, ils font attention à plein de choses. Alors qu'avec un artiste, ils écrivent vraiment librement, ils laissent leur pensée partir dans tous les sens et ça donne des résultats super souvent.
Est-ce que ça permet aussi parfois d'aller un petit peu plus loin qu'on aurait pu avec un travail, j'ai envie de dire, plus ordinaire, même si c'est un travail...
Oui, parce que comme là, ils s'imaginent déjà un livre, ils partent vraiment dans un univers différent de celui de l'école, en fait.
Ah oui, j'entends que vous entendez avec un très très léger décalage ce que nous sommes en train de nous raconter. Bon, alors j'imagine que vous allez peut-être écouter l'émission jusqu'au bout pour avoir les autres histoires.
Oui, bien sûr.
Bon, eh ben ça fut une après-midi sympa finalement, trois belles légendes dans une après-midi, c'est plutôt pas mal. Eh bien, on va vous souhaiter une bonne écoute et puis on vous remercie de votre participation.
Beaucoup.
On vous félicite encore à nouveau pour cette belle écriture du bunker. Merci à vous.
Merci.
Voilà, bon, on sent que la classe, elle est là, quoi. Hein. C'est tous les élèves sont derrière leur institutrice. Je vous propose qu'on écoute tout de suite une deuxième légende. Cette deuxième légende, c'est le terrain de foot, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ce terrain de foot où l'écriture a été faite du coup dans l'école Jacques Cartier, la mise en voix à Paul Éluard et puis la mise en son au Bois Boïe. Mais on y reviendra juste après l'écoute. Le terrain de foot, la deuxième légende que nous écoutons aujourd'hui.
Le terrain de foot.
On raconte
que le terrain de foot de Netreville
est doté d'une histoire particulière. C'est ce qu'on raconte ? Cette histoire ? Est-elle vraie ?
Est-elle fausse ?
Nous ne le savons pas. C'est ce que l'on sait, c'est que tout commence à la ferme des Peupliers.
Le 1er décembre 2000.
Le jour où Catherine Daniel donne naissance à New
dans la grange. Par chance, Sébastien Daniel, son mari, s'y connaît en accouchement.
Un peu plus tôt, il a mis bas une chèvre
qu'il a prénommée Lily.
Une chèvre noire
avec des taches marron.
Une chèvre ou une femme, ma foi. Sans souci, il aide donc sa femme, qui n'a pas eu le temps d'aller à l'hôpital,
à donner naissance à leur enfant New.
New est donc né au milieu des chèvres. Ce départ dans la vie particulière lui a donné
le goût de la nature
et des animaux. Sa meilleure amie, la chèvre Lily, ensemble, ils secouent les pommiers pour en faire tomber des pommes. Ils siègent dans l'enclos.
Mew enfourche Lily et ils gambadent.
Mew mène une vie tranquille toute son enfance
entre l'école et la ferme de ses parents.
C'est une élève brillante.
Ses matières préférées sont les maths
et les sciences. Mais dès le premier jour de la rentrée de Nio au lycée,
Lily tombe malade.
Une catastrophe !
Le vétérinaire passe à la ferme et diagnostique une sorte d'asthme.
Niou est super inquiète.
Elle veut agir.
Elle pense d'abord à un remède.
Mais quel remède?
Elle se met à créer des potions avec de la boue,
de l'eau,
du savon,
du sable
et de la craie,
du bois
et des cailloux.
Mais rien ne fonctionne.
Alors elle se met à lire
des livres sur la pollution
pendant des mois.
Nature et machine.
Nature et pollution.
Créatures et plantes.
Protéger l'environnement.
Dans un article d'une revue scientifique,
elle découvre
qu'au Brésil,
il y a quelques mois,
un certain Martino Silva a conçu les plans d'une machine
qui peut nettoyer l'air.
Incroyable,
se dit-elle.
Martino Silva, n'est-ce pas l'ami d'enfance de mon père ?
New montre l'article et la photo de Monsieur Silva à son père.
Celui-ci le reconnaît.
Martino a tellement peu changé.
C'est décidé.
New s'envole pour le Brésil.
Il lui faut récupérer ses plans.
Après l'avion, la voici sur un bateau.
Fatiguée, mais heureuse.
Elle arrive chez les Partimatifoles.
Un peuple très fragile des poumons.
Qui, depuis des siècles, cherche à trouver un remède à leurs maux.
Un peuple qui a accueilli, il y a cela des années, Martino Silva.
Elle se rend à la mairie de Lille.
Enfin, quelque chose qui ressemble à une mairie.
Et là-bas, on lui donne un itinéraire pour arriver chez Monsieur Silva.
Et une adresse approximative.
14.
Ou 15.
Ou 16.
Ou peut-être même 30.
Colorado et Eva Chao.
L'adresse ne compte pas.
C'est l'itinéraire qui compte.
C'est l'itinéraire qu'il faut suivre pour trouver la maison verte,
lui affirme-t-on.
Miu suit donc l'itinéraire et se retrouve sans problème devant une maison verte.
Elle frappe à la porte.
Un homme chauve,
gros,
avec les dents toutes noires,
se présente devant elle.
Miu se met à trembler de peur.
Elle souffle un coup.
Prends son courage à deux mains.
Bonjour Monsieur Silva, je m'appelle New, je suis française et je viens d'arriver sur votre île. J'ai lu votre article qui parlait de la machine à laver l'air. Or, j'ai une chèvre malade qui a besoin d'air pur pour guérir. Vos inventions me seraient d'un grand secours.
C'est le plan que vous voulez ?
Oui, c'est le plan que j'aimerais.
Je ne vais pas dévoiler mon plan à une étrangère.
Ça tombe bien car je ne suis pas une inconnue. Je suis la fille de Sébastien Daniel. Vous vous souvenez de lui ?
Ça me dit vaguement quelque chose. Sébastien Daniel. Oui, oui. Aurais-tu une photo de ton papa ?
Bien sûr, je vous la montre tout de suite.
Ah oui, 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 Sébastien Daniel, mon ami, mon grand ami, mon meilleur pote à l'école primaire Jacques Cartier. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de lui. Est-ce qu'il se porte bien ?
Oui, ça peut aller. Mais comme moi, il est très triste pour Lily, notre chèvre adorée.
Votre chèvre ? Ah oui, votre chèvre. Bon, d'accord. Je vais vous donner le plan de la machine à laver l'air. Laissez-moi une minute. Tenez, faites-en bon usage.
Nous tient enfin les plans.
Elle reprend le bateau,
file à l'aéroport
et s'envole pour la France.
Cocorico ! Arrivée à la ferme,
elle apprend que Lily est souffrante.
Il y a urgence.
Il faut construire cette machine à laver l'air
au plus vite. Nous travaille jour et nuit,
nuit et jour.
Elle ne dort plus.
Et le 15 mars 2018,
elle achève enfin la fameuse machine.
Elle mesure 1,10 m de haut,
possède deux lanières en cuir
pour pouvoir la porter sur le dos. Le réservoir est en métal.
Et le tuyau aspirateur en plastique, renouvelable.
Comme l'a dit Martino Silva, la machine a absolument besoin d'air pur pour fonctionner.
Reste ce problème à résoudre.
New s'interroge.
C'est quoi de l'herbe pure ? Est-ce que c'est de l'herbe claire ? Est-ce que c'est de l'herbe humide ? Est-ce que c'est de l'herbe qui a bon goût ? Est-ce que c'est de l'herbe recrachée par une vache ? Est-ce que c'est de l'herbe sans pesticides ? Où trouver de l'herbe sans pesticides ?
New commence les essais avec l'herbe de sa ferme.
Mais ça ne fonctionne pas.
L'herbe de son voisin.
Mais ça ne fonctionne pas.
L'herbe devant l'école Jacques Cartier ?
Mais ça ne fonctionne pas.
Elle poursuit ses recherches.
Mais aucune herbe n'est pure.
Sèche ou mouillée,
claire ou recrachée.
Rien n'y fait.
Aucune n'est pure.
Un matin, en se promenant, elle prélève quelques brins d'herbe du terrain de foot de notre ville.
Et là, miracle !
Cette herbe est le carburant idéal pour sa machine.
Cette herbe est donc pure.
New contacte alors tous ses amis.
Et les amis de ses amis.
Et ses parents.
Pour tondre l'herbe du stade.
Et la transporter jusqu'à la ferme.
Le 16 mars, c'est le grand jour.
Miu fait fonctionner sa machine.
Elle met l'herbe dans le réservoir et tout à coup...
Et tim tim tim, billy clac flou, boum boum bam, ching 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 ching.
Nettoyage efficace.
Aspiration des substances toxiques.
Des particules fines.
Des oxydes d'azote.
Du monoxyde de carbone.
Etc. 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 Etc.
Bam, ching ching.
Viens voir ce qui se passe dans la grange,
crie la mère de New. Lily a ouvert les yeux et tente de se mettre debout,
hurle son père.
C'est un miracle,
prononce-t-il en chœur.
Un merveilleux miracle. Bam, ching, ching, ching.
Et depuis ce jour, vous savez quoi?
Bam, ching, ching.
Depuis ce jour, le terrain de foot de Netreville est sacré.
Depuis ce jour, aux abords du terrain,
demeure une tondeuse hyper perfectionnée.
Le terrain de foot, donc écriture, une classe de Jacques Cartier, mise en voix, une classe de Paul Éluard, enfin un groupe de Paul Éluard, et puis mise en son, un groupe du Bois Bowie. Voilà comment a été composée cette légende urbaine. On aura appris entre deux d'ailleurs que le terrain de foot de Netreville a des vertus exceptionnelles.
Tout à fait.
Exceptionnelles. Mais voilà, c'est l'histoire des légendes, comme le rappelait tout à l'heure Laetitia. Eh bien, c'est le ragoût que nous continuerons à colporter une nouvelle légende de Netreville. On voit bien que sur cette mise en voie, et je voulais revenir deux petites secondes avec Pierre sur les mises en voie, on voit là que c'est joué. Enfin, il y a vraiment des choses sur lesquelles le jeu est un jeu de comédie. Enfin, c'est pas certaines choses, c'est un jeu de comédie en fait, la mise en voie. Et c'est pas forcément évident quand la légende doit être qu'une voix. C'est-à-dire que quand on voit un comédien jouer avec son corps sur une scène, par exemple, on voit bien l'intention du corps qui souligne ou qui soutient la voix. Là, il n'y a que la voix pour donner cette sensation. Comment on fait passer cette intention aux enfants ? Comment est-ce qu'au bout d'un moment, un groupe d'enfants, on arrive à leur faire ressentir cette intention ? Parce que parfois, la voix doit être exagérée pour être dans le ton du jeu.
Je crois qu'en fait, que ce soit les enfants ou les adultes, mais en tout cas les enfants, peut-être c'est plus proche, c'est qu'on a tous eu des histoires qu'on nous a racontées. Et quand on entend quelqu'un nous raconter une histoire, que ce soit le soir ou à un moment, on accentue un peu le moment où le loup va sortir, ou le moment où on a peur, le moment où c'est joyeux. Et ça, en tout cas, les enfants avec qui on a travaillé, je trouve qu'on s'est retrouvés très vite là-dessus et qu'il fallait effectivement, pour que on puisse avoir du plaisir à l'écouter, pour que les gens puissent avoir du plaisir à l'entendre, que du coup, eux, il fallait qu'ils forcent un peu le trait et qu'on fasse un peu plus peur ou que ce soit un peu plus joyeux. Et c'était très agréable, puisque... Mais ça, je pense que, j'y sais, tu le sais, c'est que c'est le bonheur de la radio aussi. Enfin, c'est comment, tout d'un coup, la voix... On n'a plus que cet instrument-là. Mais donc, on a fait tout un travail d'imaginaire. On s'est saisi de ce qu'avait écrit... En l'occurrence, là, Jacques Cartier, et quand à Paul Éluard, on a d'abord fait le travail d'imaginaire, qu'est-ce que ça nous faisait, qu'est-ce que ça représentait, et puis à partir de là, l'idée, c'était de faire passer le mieux possible toutes ces émotions qu'on avait, donc il fallait qu'on les accentue, puis on avait peu de temps, puisque, faut le dire aussi, ce qui a été un joyeux, c'est de travailler tous ensemble, mais avec peu de temps, donc encore bravo à chacune et chacun, quoi, vraiment.
Alors, on va récupérer notre appel de l'école Paul Éluard qui a travaillé sur la mise en voie, notamment du terrain de foot. Et nous avons Nathalie et Guillaume, je crois. Bonjour à vous.
Bonjour.
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 Et j'ai l'impression qu'il y a la classe derrière.
Oui, tout à fait.
Les classes, carrément.
Les deux classes, oui, en effet.
Oui.
Bon, alors.
En fait, dans deux salles différentes quand même, mais ça fait du monde. Il y en a qui sont un peu loin.
Merci pour le protocole sanitaire, Nathalie.
Nous sommes rassurés.
Donc, alors déjà, premièrement, quelle est la première réaction à l'écoute de cette légende, le terrain de foot? Et puis peut-être que certains ont écouté aussi le bunker juste avant. Quelles sont les impressions à l'écoute de ces légendes finalisées?
Alors, les impressions.
Bah alors, au début, il y avait une sorte d'excitation, hein, parce que bon, c'est leur travail qui va être écouté par tout le monde. Et au final, on sent un petit peu honte d'entendre leur voix, donc c'était très marrant, mais au final c'est un côté plutôt positif. Luna, t'en penses quoi toi?
Bah, je trouve que c'était très positif, c'était, on était un peu stressé et aussi je sais pas.
Blocage. Non, en fait il y a une grosse prise de conscience que on s'entend à la radio. Du coup, c'est magique, c'est un gros projet. En fait, ils prennent conscience vraiment du collectif, là, que les trois écoles sont réunies sur ces trois histoires et qu'il y a le rendu de tout ce travail, là, et on a des émotions, de l'étonnement, on a des élèves impressionnés, d'autres qui rient, qui trouvent ça très drôle. Et là, dans l'instant, ils sont tous plutôt intimidés, je dirais.
En tout cas, Luna et Djibril, vous nous avez fait beaucoup rire avec les voix du papa et de la maman, je tiens à vous le dire.
Ok. Alors, vous entendez?
Ah oui. Alors, c'est Luna et Djibril qui ont particulièrement touché ou amusé, d'ailleurs, Pierre, avec les voix du papa et de la maman.
D'accord. Bah, ils sont là tous les deux, Luna et Djibril. Donc, vous voulez dire un petit chose? Vous avez bien fait rire.
Voilà, ils ont joué d'ailleurs.
Vous pouvez rire votre interprétation du papa et de la maman.
Voilà. Ils sont très intimidés. Alors, Djibril, papa.
Comment on fait une voix de papa d'ailleurs, Djibril? Comment est-ce qu'on fait une voix de papa? Ça m'intéresse, moi, de savoir. Alors, comment on travaille une voix de papa quand on est un enfant?
Bah, je sais pas.
Ah, d'accord. C'est venu naturellement, c'est le talent, c'est ça? Ça ne s'explique pas.
Oh, c'est le talent. C'est le talent de Djibril, on peut l'applaudir.
Voilà. Ça, on me glisse dans l'oreille. De toute façon, ils ont tous été très talentueux. Voilà ce qu'on,
bien sûr.
Ce qu'on me glisse dans l'oreille. Un travail en classe comme ça est sur plusieurs moments, parce qu'il y a eu sur l'école Pelé-Loire, il y a eu la mise en voix, il y a eu aussi du travail autour de la mise en son. Ça permet quoi, et puis même de l'écriture, d'ailleurs certains groupes ont bossé sur l'écriture, ça permet quoi aux élèves et peut-être aux enseignants aussi de travailler sur toutes ces étapes-là d'une écriture de légende?
Bah, ça permet de s'ouvrir un petit peu à l'imagination, et puis les professionnels qui viennent dans l'école nous permettent d'avoir des approches que nous on n'a pas forcément en tant qu'enseignants, parce qu'ils sont professionnels dans ce domaine-là, et on a aussi le retour sur le travail, parce que tout à l'heure on a entendu le bunker où une partie de notre classe a travaillé sur donc le son, et ils ont entendu que les élèves du Bois Bowie avaient beaucoup apprécié le travail qui avait été fait sur ce son, et ils étaient très fiers.
Ah bah,
donc on a un retour sur le travail collectif en fait fait sur ces trois écoles, et ça fait très plaisir.
Très bien. Est-ce que les élèves, ou peut-être même vous, les enseignants, souhaitez ajouter quelque chose? Et si vous n'avez pas en mots quelque chose à ajouter, une expression de joie nous ferait le plus grand bien, parce qu'on sent ça à travers et les mots des enfants et les mots aussi des instituteurs.
Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose de particulier? On a Héloïse qui veut s'exprimer.
Ah bah avec plaisir, Héloïse.
Bah déjà, bonjour. Et franchement, je suis super contente parce que j'ai jamais passé à une radio. Et franchement, ça fait vraiment bizarre. Et voilà, ça fait vraiment trop bizarre.
Et est-ce que ça fait plaisir? Ça fait plaisir surtout. Voilà, ça fait plaisir en plus d'être bizarre alors.
Non, oui.
Très bien, bah, merci beaucoup à vous tous et à votre participation. Et puis on va écouter juste après.
Bravo, 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 bravo.
Et puis, juste là, on va écouter une dernière légende. C'est la chanson hantée. Je crois que vous avez bossé sur l'écriture sur cette légende.
Oui, tout à fait. C'est l'écriture de l'école Paul-et-Loire.
Et ben voilà, et ben vous allez voir ce qu'a donné cette écriture après être passée par la mise en voix et la mise en son. Merci à vous.
À bientôt.
Merci beaucoup.
Eh bien, moi, je me retourne vers Damien à la réalisation pour lui proposer que nous écoutions justement la chanson hantée. Et puis, nous revenons juste après autour des micros.
La chanson hantée. Il y a des acnés.
Une amie m'a raconté que la chanson située au 26 rue de la Censurière.
Eh bien, cette chanson était hantée.
Cher auditeur, chère auditrice,
tu veux bavoir ?
C'est sûr ça ?
Parce que cette belle espoir, c'est une horreur.
T'es pas une trompette qui a peur ?
Ok.
Bon, c'est parti.
Tu sais qui habite aujourd'hui dans la chanson hantée ?
Oui, je sais.
C'est Monsieur Pierre.
Sais-tu ce qu'il est arrivé à Monsieur Pierre ?
Non !
Il y a quelques acnés.
La flamme de Monsieur Pierre est forte.
Elle s'appelait Marianne.
Juste avant sa mort,
elle gagne au coco.
Elle croche tous les bons héros.
Elle empoche 8 millions d'euros.
C'est une méga pomme.
Elle devient poissonnière.
Elle rêve avec cette pomme
d'acquérir
une villa à Tahiti,
une Porsche noire
et de léguer une partie de son pain à une association qui aide les sans-abri.
Son fils Jordan qui étudie la racine
pense que sa maman lui donnera
une partie d'argent gagné.
Mais Marianne n'oublie pas un centime.
Pendant des acnés,
son fils lui a volé le peu de charbon qu'elle avait
pour sa consommation quotidienne
d'espoir qui font peur.
L'ami de Georgie s'appelle Ethan.
Et il est un espeur
connu du quartier de Nétreville.
Il se cale devant la poste
et fait son business.
Ethan a les yeux qui virent vers le rouge.
Il porte une énorme cicatrice
sur le cou.
Il possède comme fromage
un serpent sur l'avant-bras droit.
Il mesure 1m87
et 80 kg de muscles.
Ses mains sont venimeuses.
Il a une voix cave
qui grogne comme un ours.
Ethan fait trouiller.
Un four, Marianne écoute la radio.
Elle flaco, le présentateur,
raconte une bague
qui commence ainsi.
C'est Toto dans l'avion
qui regarde les voyages
et qui aperçoit.
Marianne se met à rire,
à pleurer de rire,
les mains sur le ventre,
elle tape sur le sol,
avec ses pieds,
elle saute,
elle rit,
elle n'arrive plus à respirer.
Et c'est alors qu'elle tombe.
Et la voilà, porte.
Je suis pas.
Quelques beurres plus tard,
Jordi et Tom rentrent à la chanson.
Pour une petite choré entre amis.
Et surprise, ils tombent nez à nez
avec la porte.
Oh my god, maman!
Directement,
Jordi prend le poulpe de sa mère.
Et se rend compte
qu'on ne le sent plus.
Il hurle.
Ethan, appelle la police.
Ok,
répond Ethan.
Je compose le 17. Madame la police, la maman de Jordi est porte. Venez s'il vous plaît, au plus vite, au 26 rue de la Censurière.
Ok, pas de Madeleine, nous arrivons tout de suite.
Jordi et Ethan entendent
les migraines de la police
qui s'approchent.
Ils sortent de la chanson.
Avec leurs bras, ils émitent les essuie-glaces.
Les policiers les aperçoivent.
Il s'arrête devant la chanson.
La plus gourmande des policiers,
la mangeuse de donuts
aux cheveux bouclés,
entre dans la chanson
et constate rapidement
que Mariam est morte.
Jordi s'effondre en pleurs.
L'enterrement a lieu.
Quelques fours plus tard,
sous la flûte,
face à la bombe se trouve
le père Pierre,
le fils Jordi,
le tonton Alexis,
l'ami Ethan,
le voisin Jean-Claude,
la voisine Bernadette.
L'enterrement se passe à toute bavure.
4 fruits plus tard.
Pierre, le père et Marie
est au premier étage.
Dans sa chambre,
en train de dormir.
Tout à coup, il entend des bruits
qui donnent
la clair de fouille
qui font trouiller.
Pierre ouvre les yeux
et regarde autour de lui.
Il n'aperçoit rien de suspect.
Petit à petit, il se feuille d'or.
Et subitement, clac !
Une fenêtre se referme.
Toute seule.
Pierre sursaute.
Il expire très frite.
Devant lui, quelqu'un.
Depuis que sa flamme
est porte,
Pierre dort la saucière allumée.
Une flamme surgit. Elle a les cheveux blonds bouclés
et les yeux marrons.
Elle est de grande taille.
Et elle a une calculatrice
au milieu du visage. Elle porte un sweat Lacoste blanc,
un pantalon de jogging Nike noir
et des TN rouges et noirs.
Elle est stylée.
Nom d'Amaïs !
Pense Pierre.
Va falloir encore faire la vaisselle. Elle est de retour. Marianne, oh ma petite gentille maniaque préférée.
T'as pas fait la vaisselle, clochette !
Dit le fantôme de Marianne.
Si t'es trop paresseux, paie quelqu'un pour le faire. Tu as les moyens maintenant.
Elle veut lui tirer les groseilles.
Mais comme elle est maintenant
un fantôme,
elle n'y arrive pas.
Pierre se met alors à pleurer de rire.
Attention ma clochette, dit Marianne. Méfie-toi du rire. Le rire, ça peut te faire danser jusqu'à la porte. Pierre lui répond.
Je ne veux plus que tu me laisses. Et pour que tu restes, je rendrai cette chanson aussi Porsche que Monsieur Porsche. Oh, ma tendre clochette.
Marianne se met à frire.
La chanson hantée, une écriture à l'école Paul-Éluard, une mise en voix à l'école du Bois-Bohis et une mise en son à l'école Jacques Cartier. Nous aurons d'ailleurs dans quelques instants la classe de Damien Paumé-Baudre à notre téléphone pour pouvoir échanger. Je voulais revenir, moi, sur la mise en son, Joseph. C'est vous qui avez opéré sur la mise en son avec les F. Comment vous avez procédé pour mettre en son ? Et déjà, mettre en son, c'est quoi ?
Eh bien, déjà, commençons par bravo. Bravo, bravo Jacques Cartier, parce qu'on a une mise en son incroyable, là, je pense. Du début à la fin, et notamment un petit clin d'œil à ce tube. C'est eux qu'on a au téléphone juste après, c'est ça ?
Oui, c'est eux que nous avons au téléphone juste après.
Je veux entendre leur réaction par rapport à leur tube qu'ils nous ont fait dans cette belle légende. Comment on met en son ? Eh bien, du coup, nous, on est arrivé à la fin, en fait, du processus. Puisque du coup l'histoire a été écrite, a été mise en voix, et du coup moi j'ai appréhendé mon rôle d'accompagnant sur comment sublimer cette histoire du coup qui est déjà écrite, qui du coup voilà, c'est le plus important, je pense, ça reste l'histoire, et le son est censé appuyer, je pense, cette histoire. Et du coup, ça a été de rechercher avec les élèves, c'est vraiment basé sur leurs idées, comment on peut mettre en son la peur, comment on peut mettre en son une ambiance de bunker, comment on peut mettre en son une chanson à la radio, par exemple. Et du coup, ça part vraiment de leurs idées, mais aussi de leur interprétation, parce que du coup, moi, je suis arrivé dans les classes avec une grosse malle, je pense que les élèves s'en rappellent, avec plein d'instruments différents qui ont été gentiment prêtés par la MJC, pour le dire, où on retrouvait des métallophones, des mélodicas, des percussions diverses, des couvertures de survie, de tout ce qui pouvait faire.
C'est pas un instrument de musique, ça ?
Si, parce que du coup, tout est instrument de musique. Voilà, une table, c'est un instrument de musique, la bouche est un instrument de musique. Et du coup, voilà, tout ce dont on avait quand même un panel de sons assez large, et avec tous ces sons, comment on fait pour imaginer le mieux possible appuyer ces histoires qui nous étaient proposées par les autres classes.
Voilà. C'est chacun s'appuie du travail du précédent tout en mettant le le collectif, le travail collectif en valeur.
Voilà. Exactement. Et j'ajouterais juste aussi que que je leur ai demandé beaucoup en concentration, parce que moi, dans ma collecte de sons, j'avais envie que ça sonne le mieux possible, comme tout le monde. Et du coup, il me fallait des captations instrument par instrument, son par son. Et du coup, les élèves ont eu cette discipline incroyable de faire ce vrai silence entre les prises pendant que j'enregistrais chaque élément sonore. Parce que je crois et j'espère en tout cas que les élèves avaient vraiment aussi tout. Je sentais en tout cas cette volonté de faire, d'avoir le meilleur résultat final possible. Et ce qui, je crois, après avoir écouté ces trois légendes, je crois que c'est ce qu'on a réussi à faire. Voilà.
Eh bien, justement, nous prenons au téléphone la classe de Damien Paumé-Baudre. Bonjour Damien, vous êtes avec nous.
Bonjour.
Et alors. Et est-ce que la classe est là ?
Oui.
Ah, ils sont encore impressionnés, mais oui, ils sont tous là.
Bon, alors, les premières impressions... Bonjour.
Bonjour.
Les premières impressions, justement, après avoir écouté les trois légendes, maintenant, en fait. Là, on arrive sur les trois écoutes, là. Quelles sont les impressions d'écoute des légendes ?
Elias, tu veux parler ? Oui. Vas-y, dis.
Bah, je trouve ça bien. Je trouvais ça bien parce que c'était facile. En plus, on s'est bien amusé.
Qu'est-ce qui était facile, le travail que vous avez réalisé
Je dis pas que c'était facile, mais c'est qu'on s'est bien amusé.
Ah, et quand on s'amuse, en fait, ça peut être difficile. En fait, quand on s'amuse, ça peut être difficile, c'est pas grave. C'est ça ?
Voilà, c'était un projet ludique et c'est le fait de travailler sur le texte, de lire le texte, entendre la mise en voix et faire le son. C'est un projet qui a été super ludique pour eux et du coup, ils ont pris beaucoup de plaisir à le faire. Et là, ils sont un petit peu impressionnés par ce que ça a rendu. Parce qu'en fait, quand on fait la mise en son, on a juste des passages. Et Joseph a passé du temps à enregistrer chaque petite partie, mais ils n'ont jamais entendu la finalité du projet. Et là, ils sont un petit peu sous le choc de ce que ça rend. Et ils n'osent pas trop parler.
Ils sont fiers.
Alors, sont-ils fiers ? Laetitia demande, sont-ils fiers ?
Est-ce que vous êtes fiers de votre travail ?
Oui !
Ah, bah là, on les entend. Alors, il y a Joseph tout à l'heure qui, suite à la légende, disait, tiens, si c'est la classe de, si c'est une classe de Jacques Cartier qu'on a derrière, j'aimerais bien savoir, c'était ce qu'il pensait de leur tube ou exactement. Où en était la vie du tube.
Il y avait un tube en jeu, là.
Il y avait un tube en jeu, apparemment, non ?
Alors, apparemment, oui, ils ont inventé un tube, et donc, qui va en parler ? Elias, tu veux en parler encore ? Vas-y, tu en parles.
Alors, c'est quoi cette histoire de tube ?
Bah, on s'était amusé et après quelqu'un a lancé une idée de tube.
Ouais. Et alors on veut savoir où ça en est, c'est ça ?
Bah, on a commencé mais on n'a pas terminé.
Ah, vous n'avez pas fini ?
Je pense qu'ils attendent Joseph pour pouvoir faire le faire le CD.
Ouais, il manque plus que les voix.
Ouais.
Ok.
Voilà. C'est ça l'idée. Ça,
pour représenter juste pour clarifier oui. Cette histoire de tube à tout le monde. En fait, on était en train d'enregistrer du coup les éléments de l'histoire et les élèves très disciplinés de Jacques Cartier ont tout de suite pris les instruments pour s'en emparer et créer des choses, etc. Et il y a ce tube qui est cette rythmique qui est sortie. Et au début, c'était pour rigoler, sauf que en fait, je leur ai proposé de le mettre dans l'histoire. Et ils se sont du coup appliqués à bien jouer ce tube qui n'est effectivement pas fini puisqu'il manque encore les paroles. Mais je ne suis pas sans revenir, je crois.
Bravo. Bravo.
On attend.
Voilà. Je crois que des deux côtés, les messages sont passés. Il n'y a plus qu'à trouver la date, j'ai l'impression. Sur ce travail autour des légendes, est-ce que ça a généré des envies, des sensibilités, des projets auprès des élèves ? Est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont passées qui pourront vivre après ? Je ne sais pas, tout à l'heure on parlait de lectures d'histoires qui font peur. C'était les élèves du Bois Boï qui nous disaient ça leur avait donné envie de lire des histoires qui faisaient peur. Je sais pas, est-ce que ça a généré quelque chose pas forcément sur les légendes hein, qui pourraient se traduire autrement est-ce que ça a généré quelque chose ce travail sur les légendes auprès de certains jeunes ou pas?
Je pense que ça a déjà incité certains élèves à plus lire des histoires. Ça permet aussi peut-être dans un avenir proche de continuer ce genre de projet au sein même d'une école, par exemple créer un texte, la mise en son et faire la mise en voix aussi. Mais ça peut amener à plein de projets que tu peux réaliser dans une école. Et je pense que c'est le fait d'être dans une dynamique de projet, ça donne un objectif aux élèves qui est plus intéressant. Et donc, comme le disait Magali tout à l'heure du Bois Bowie, ça les incite un peu plus à travailler. Ils sortent un peu du cadre scolaire et c'est beaucoup plus motivant. Et donc, ce type de projet pourra être réalisé à l'avenir. Et je pense que c'est vraiment intéressant et ça nous donne, nous, des pistes pour pouvoir travailler dans le futur.
Est-ce qu'en termes d'ambiance de classe, et ça c'est la question s'adresse un peu plus à l'instituteur qui est en vous, est-ce qu'en termes d'ambiance de classe, de dynamique de classe, ça change quelque chose ou ça apporte quelque chose de particulier d'avoir ce type de projet ?
Le fait qu'un intervenant vienne dans l'école, tout de suite ça crée une sorte d'ambiance, une sorte de bonne ambiance, on est tous autour de l'artiste, on veut tous faire le mieux possible. Du coup, les élèves s'écoutent, ça permet d'écouter les autres, de proposer, de donner son avis. Donc, les élèves apprennent à s'écouter, apprennent à proposer, à réaliser. Donc, c'est vraiment intéressant. Enfin, franchement, moi, j'en suis très satisfait. Je remercie d'ailleurs Joseph pour son intervention et les autres artistes aussi pour les autres classes. C'est vraiment super intéressant et pour quelques demi-journées dans une semaine, on a vraiment travaillé énormément. Les élèves ont vraiment progressé en quelques temps. C'est des projets très, très intéressants et qui plaisent vraiment, quoi. Et on sent les effets directement.
Et puis le résultat est à la hauteur du travail. En tout cas, c'est un très très beau résultat qui a été proposé à l'écoute. Pierre souhaitait poser une question ou intervenir, je sais pas.
Rebondir et vous remercier aussi tous les enseignants et enseignantes parce qu'en fait vous nous remerciez, vous remerciez les enfants, mais aussi c'est grâce à vous que cette chose-là s'est faite. Donc merci de votre souplesse et de votre accompagnement, sincèrement.
Merci à vous et puis merci pour ça. Est-ce que vous voulez dire quelque chose encore, les enfants ?
Oui.
Dites-le.
Merci
les enfants.
Merci à vous pour Bravo ce beau résultat et ces trois belles légendes urbaines. Merci beaucoup à vous. Eh bien, une belle fin de journée à vous.
Merci à vous. Au revoir.
Alors, moi, je voulais revenir un petit peu sur le retour. On a écouté les trois légendes urbaines. Déjà, vous les avez découvertes, d'ailleurs, pour la plupart d'entre vous, totalement finalisées. Hein. Chacun avait un petit bout, mais pas toute l'écoute.
Il n'y a que Joseph qui avait tout.
Voilà, Joseph avait tout. Nous, on a eu la chance aussi de les récupérer en amont de l'émission. Mais je voulais me retourner vers Barbara Samuel déjà. Vous, avec votre regard d'experte, c'est pas le premier projet que vous suivez, j'imagine. Déjà d'une, la première réaction qui va être celle de plus de l'émotion, en fait, parce que vous avez été confronté comme nous à ces légendes. Et puis après, peut-être le regard plus professionnel sur ce type de travail, ou sur ce travail en particulier des légendes urbaines.
Alors oui, beaucoup d'émotions, de rire, de frissons, de peur, beaucoup de... Je suis impressionnée par le travail qui a été mené. Je trouve ça très beau, en effet, de voir que ces trois écoles ont travaillé ensemble et de savoir qu'à distance, les enfants écoutaient et découvraient les projets finalisés. Je trouve ça très émouvant. Vous demandiez les effets de ce genre de projet. Moi, ce que je trouve... très beau, c'est qu'en fait, ça travaille à long terme. D'abord, ça donne une confiance aux enfants parce qu'ils découvrent aussi toutes leurs potentialités. Ils voient que tous, ils peuvent produire quelque chose et que ça fait un objet vraiment magnifique, finalisé. Donc ça donne vraiment confiance en les potentialités de chacun, la force créatrice, la force d'expression. Mais je trouve que ça travaille à long terme, c'est-à-dire que c'est des projets qui marquent et qu'ils vont y repenser probablement très longtemps. Je le dis aussi d'expérience, parce que moi, en tant qu'élève, j'ai eu la chance de vivre ce type de projet et que, en fait, j'y pense tout au long de ma vie, personnel et professionnel. C'est ce qu'on peut appeler le socle. Il y a une forme de socle, là. Et peut-être que ça va faire naître des vocations, ou pas, d'ailleurs, peu importe. Mais si, sur l'ensemble, il y a un élève qui a envie, un enfant qui se dit « Moi, j'ai envie d'aller vers le jeu », ou qui va continuer à écrire, ou qui aura envie de travailler dans le son, bah, pourquoi pas. Puis les autres, ils seront riches de tout ce que ça leur a apporté, et de cette confiance. Et moi, je trouve ça très beau, parce que je trouve, en effet, que ça a des échos, en fait. Voilà, ils vont y repenser longtemps. Et c'est ce que permet la présence des artistes à l'école. Et on espère que ça va se développer, que ça continuera et que les enfants auront la chance de vivre ce genre de projet encore longtemps.
En tout cas, le résultat, effectivement, renvoie pas mal de choses, surtout en tant que production, une belle histoire et puis et bien mise en voix. Je me retourne vers Laetitia Adjanoun et puis Pierre Lamandé. Vous n'aviez pas écouté les résultats définitifs.
On doit dire la vérité ou pas ? On l'avait.
Ah bah oui, la vérité. La vérité. Après, c'est vous qui voyez. Mais
on les a eu il y a une semaine, je pense.
Ah, finalisé ?
Non, même pas. 3-4 jours. 3-4 jours. Ah, d'accord. Voilà, une petite semaine. Donc on les a quand même écoutés une seule fois.
On pouvait pas, en les ayant reçus, attendre. On était trop impatients de.
Ah ben non, mais c'était pas possible de pas les écouter. Enfin,
du coup, c'est vrai qu'on les a pré-écoutés un peu.
Voilà, nous on les a eu un tout petit peu avant aussi à la radio. Je les ai reçus. D'un moment, on les a mis de côté pour travailler l'émission, mais c'est la tentation de tendre une oreille est trop forte forcément face à ce type d'histoire.
De toute façon, ça change le fait là cet après-midi d'être ensemble et puis. Là, dans le studio, il y a du monde. Et puis de savoir que tout le monde écoutait, ça prend une autre dimension. Donc l'écoute, elle était juste de se dire « Super, on a travaillé tous les trois, on le sentait, que ça fonctionnait. » Mais voilà, tout d'un coup, c'est la confirmation. Mais là, cet après-midi, en tout cas, de savoir que enfin, ces histoires, on va pouvoir les écouter, les réécouter, les faire écouter, qu'elles vont circuler. Voilà, ça change absolument tout. Donc ça reste une première écoute, presque.
Oui, et puis oui, c'est une émotion autre que d'écouter chez soi, tout seul. Et puis il y a aussi ce plaisir, en fait, d'avoir eu la bonne intuition, j'ai l'impression, parce que c'est un média qui se perd. Enfin, les nouvelles radiophoniques, le théâtre radiophonique, c'est quelque chose qui se perd. Et en fait, c'est quelque chose qui peut circuler partout. Et qui, avec le confinement, etc., était la chose la plus belle à faire, je pense. Et je suis très heureuse. Et je pense qu'on va continuer vers cette voie-là, parce qu'il y a quelque chose à faire avec cette façon d'écrire et de jouer et de mettre en son. Voilà.
Et puis elles vont se propager maintenant, ces légendes urbaines.
Oui.
C'est ça, hein. Le but d'une légende urbaine, c'est qu'elle se propage et puis qu'elle tombe dans toutes les oreilles.
Mais je ne sais pas d'ailleurs, je pense qu'en tout cas, les podcasts seront disponibles sur les sites du Tangram, peut-être de Principe Actif, là, l'émission. En tout cas, va dire à toutes et à tous que oui, n'hésitez pas à vous en saisir et à les faire écouter, et notamment vous les enfants, à les faire écouter aussi à vos familles, à vos amis. Enfin voilà, vraiment faites-les circuler avec tout le plus de monde que vous pourrez.